Bonjour François Parcy.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de physiologie cellulaire et végétale de l'université de Grenoble-Alpes. Vous avez obtenu la médaille d'argent du CNRS en 2022. Merci d'être avec nous ce matin pour défendre les thèses développées dans ce livre, qui est aussi un livre où vous revenez sur le passé. D'abord, un peu de vulgarisation. Domestiquer les plantes, si on vous lit bien, c'est le sport favori des hommes qui font de l'agriculture depuis la nuit des temps.
Depuis 10 000 ans environ, En fait, domestiquer les plantes, c'est les adapter à nos besoins. C'est-à-dire, c'est les sortir de la nature, les faire entrer dans le champ. Et pour ça, on modifie en fait leur environnement. Et donc, on modifie ce qui est une qualité dans le champ, n'est pas forcément une qualité dans la nature. Par exemple, une plante, elle est naturellement souvent toxique pour se protéger. Les graines sont toxiques ou sont amères. Eh bien, la sélection humaine a fait en sorte qu'elle soit moins toxique, comme les amandes qui étaient mortelles à une époque, ou le sorgho qui était beaucoup plus amer à une époque.
Alors, on va rétro-pédaler. Donnez-nous un ou deux exemples de ces transformations de plantes que les anciens pratiquaient déjà.
Mais par exemple, sélectionner des céréales où les graines restent attachées à l'épi, c'est une des choses qui a été faite chez le riz, le blé, le maïs, le seigle, l'orge. Parce qu'en fait, si vous voulez récolter vos plantes et que vous avez besoin de ramasser les graines sous la plante au moindre coup de vent, c'est pas pratique du tout.
Surtout des grains de riz, c'est compliqué.
Surtout des grains de riz. Et donc, les populations humaines ont sélectionné des variants qui sont en fait des mutants, qui vont avoir ces grains qui restent accrochés à l'épi, ce qui facilite grandement la récolte.
Alors pourquoi, à travers les âges, et petit à petit on va s'approcher du sujet moderne, contemporain, et de cet enjeu qui consiste à fabriquer des plantes ou à développer des plantes, des légumes, des fruits qui résistent à la fois au réchauffement climatique et qui permettent de nourrir la planète, quelle vertu a-t-on attendu de ces plantes que l'on a changées petit à petit?
Ce qu'on a voulu, c'est qu'elles soient adaptées aux besoins de l'homme. C'est surtout ça qui a été important. Et l'homme, ce qu'il veut, c'est des plantes qui ne soient pas toxiques, qui se cultivent facilement, qui se récoltent facilement. Et donc, par exemple, si on prend un exemple assez spectaculaire, le maïs, à l'origine, les grains n'étaient pas nus, ils étaient entourés d'une coquille très dure. Et les Incas devaient rompre cette coquille. Et donc, au départ, la domestication, ça a consisté à attendre que dans les champs, ou dans la nature, se produisent des événements qui font que cette coquille, petit à petit, disparaisse. Mais ensuite, ça a été fait de façon beaucoup plus volontaire. C'est-à-dire que les méthodologies pour améliorer ces plantes, aux yeux humains, bien sûr, elles ont évolué, elles sont devenues de plus en plus sophistiquées.
Alors aujourd'hui, et on va en parler dans un instant, il est question de modifier génétiquement les plantes. Mais quelles étaient les techniques qui permettaient d'obtenir de meilleures variétés? Il y en avait plusieurs, j'imagine.
Mais oui, c'est ce que je disais, elles ont évolué dans le temps, en fait. Donc, les premières, ça a consisté à croiser des variétés entre elles. Des variétés relativement différentes, par exemple venues d'endroits différents. Et en fait, ces variétés, si elles ont évolué séparément, elles ont chacune accumulé leur lot de variations, de mutations. Et quand on les remet en présence par croisement, on crée des choses nouvelles, des formes nouvelles, des goûts nouveaux, des résistances nouvelles.
Exemple.
Mais par exemple, si vous prenez, les bananes, à l'origine, c'était deux espèces qui n'avaient pas été croisées et qui n'avaient aucun intérêt, qui étaient bourrées de graines et dont la chair n'était pas bonne du tout. Et c'est un croisement entre deux variétés de bananes qui a donné soudainement une banane qui est dénuée de graines et qui a une chair sucrée et qui a très bon goût.
Et ça, on a fait ça quand?
Mais ça, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on l'a fait. Et on ne sait pas exactement si ça a été fait de façon naturelle, c'est-à-dire que ce croisement a eu lieu par hasard, ou alors si l'homme l'a forcé. Mais il y a des tas d'autres exemples. Dans toutes les variétés, il y a eu ces croisements qui ont été extrêmement importants. Et en fait, au bout d'un moment, l'homme s'est rendu compte qu'en fait, au lieu d'attendre que les mutations se soient introduites dans les variétés, ils ont eux-mêmes provoqué les mutations. C'est-à-dire qu'en fait, depuis les années 50 à peu près, avec par exemple des rayons gamma ou avec des agents chimiques, on peut introduire des mutations dans les plantes. Et il y a des milliers d'espèces que nous consommons qui ont été créées comme ça, des milliers de variétés qui ont été créées comme ça.
Alors des agents chimiques, des rayons gamma, pour améliorer à la fois les rendements, pour rendre les plantes plus résistantes, pour éventuellement nourrir plus de gens. C'est ça l'enjeu aujourd'hui et c'est ce qui ressort aussi dans ce rapport sur les crises alimentaires qui nous rappelle que 300 millions de nos contemporains sont en insécurité alimentaire. Donc un des motifs pour travailler sur l'amélioration des variétés, c'est de nourrir la planète. Aujourd'hui, la génétique permet de faire des choses assez étonnantes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples?
Alors, en préambule, je dirais que la génétique, elle fait des choses formidables. Mais on ne peut pas se dire qu'on va résoudre tous les problèmes avec la génétique. Il faut bien voir que c'est les défis de l'agriculture d'aujourd'hui, ils sont immenses et ça ne sera pas résolu que comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la génétique? Un des exemples les plus frappants, c'est de rendre les plantes résistantes à certaines maladies. Résistantes aux champignons, résistantes aux virus, résistantes aux bactéries. Le problème qu'on a avec la betterave, par exemple, qui est attaquée par un insecte qui transmet un virus, c'est qu'en fait, on est obligé d'utiliser des néonicotinoïdes pour aller tuer l'insecte. Si on rendait cette betterave résistante au virus, on n'aurait pas besoin d'aller tuer les insectes qui les environnent.
Ce matin, dans un des journaux de la rédaction, on parlait de l'arrachage des vignes dans le Bordelais. C'est lié à la fois à des considérations de marché, mais aussi à des maladies qui attaquent la vigne, surtout quand elle vieillit et donc on ne peut pas la conserver. Est-ce qu'un jour, on peut imaginer qu'on protégera mieux le raisin ?
On peut pas, c'est pas juste de l'imagination, hein. Ça existe en fait. Hein. Vous savez, la vigne et la pomme, ça fait partie des cultures qui reçoivent énormément de traitements phytosanitaires. On est obligé de les protéger. En domestiquant les plantes, on les a aussi fragilisées en fait. Moi, je compare souvent les plantes domestiquées à des chiens par rapport aux loups. Hein. Elles ont besoin de nos soins, elles ont besoin qu'on les nourrisse, qu'on les protège, qu'on les réchauffe, etc. Les plantes, c'est pareil, elles ont besoin de tout ce qu'on appelle les intrants, l'eau, les pesticides. Les vignes, vous savez, on utilise beaucoup le sulfate de cuivre pour les protéger contre des maladies, des champignons, etc. On sait aujourd'hui faire des vignes résistantes à ces maladies naturellement, qu'il y aura besoin de moins de ces produits phytosanitaires. Est-ce qu'on est prêt à les accepter? C'est une autre question. Mais techniquement, on sait les faire.
Alors, vous m'offrez la transition toute trouvée. C'est aussi une question politique. Ce travail sur les variétés, il y a 20-25 ans, il y avait les faucheurs d'OGM qui défrayaient la chronique et qui ont effrayé le monde entier par rapport justement à ces manipulations génétiques sur les plantes. Quelle est votre position? Vous êtes assez sévère vis-à-vis de ceux qui nous prédisent un avenir sombre si on continue à travailler sur les OGM.
Moi, je pense que les OGM, c'est une méthodologie puissante. Et comme toute méthodologie, ça offre des possibilités, mais aussi ça donne des responsabilités. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas qu'on puisse dire « Ah, les OGM ou les nouveaux OGM comme ceux dont on parle aujourd'hui, c'est super ou c'est pas super. » Ce serait comme dire « Le numérique, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Les médicaments, on peut faire des choses vraiment extraordinaires. Il y a une grande puissance, mais il faut choisir au cas par cas. Et moi, ma position, c'est qu'il faut pas le réguler juste par le processus d'obtention, dire si ça a été obtenu comme ça, alors on est contre. Il faut regarder qu'est-ce qu'on en fait. Et d'ailleurs, l'évolution au niveau européen, mais aussi au niveau du rapport de l'ANSES en France, ça consiste à dire qu'il faut traiter chaque plante, chaque variété, au cas par cas, examiner les bénéfices et examiner les risques.
Vous avez signé en octobre avec d'autres chercheurs une tribune en ce sens pour que l'Europe aille de l'avant sur cette recherche. Et c'est vrai, quand on lit cette tribune dans Le Monde, on se dit quelque chose a changé. Il y a un blocage qui a sauté. La peur a disparu vis-à-vis des OGM. Est-ce que l'environnement politique a changé? Qu'est-ce qui fait que les écologistes sont moins sur ce sujet d'après vous?
Ah, je pense qu'ils sont toujours sur ce sujet. Je pense que c'est pas encore, voilà. Les mentalités ont pas complètement changé. En fait, c'est toujours le bénéfice versus le risque, hein. Et si on se rend compte que les bénéfices sont suffisamment grands, on va sans doute accepter certaines de ces nouvelles plantes parce que les bénéfices sont trop forts. Si elles nous permettent de mieux cultiver, de réduire les phytosanitaires, de réduire l'apport en engrais, de mieux résister, on a vaguement effleuré, et c'est quelque chose de difficile, mais de mieux résister au changement climatique, alors le bénéfice sera tellement évident que peut-être on se dira, le risque, on ne voit pas trop ce que c'est, le bénéfice, il est immense, allons-y, adoptons-les.
Alors justement, des plantes qui résistent mieux à la sécheresse parce qu'il y aura un problème de ressources en eau, il y aura un problème de chaleur. Est-ce que vous avez des exemples, des travaux qui sont menés aujourd'hui pour aider ces plantes à survivre et à remplir leur mission?
Oui, il y a des exemples, mais je dois dire là encore que résister à la sécheresse, c'est pas un caractère très simple à acquérir. Vous savez, les nouvelles OGM, là, en fait, on mute un gène, on mute deux gènes et on résout des problèmes. Pour la résistance aux maladies, c'est souvent ce qu'on appelle monogénique, donc c'est assez facile à faire. La sécheresse, c'est beaucoup plus complexe. Mais une des choses qu'on peut faire, c'est prendre une plante naturelle qui sait résister à la sécheresse et la modifier de façon à la domestiquer à grande vitesse. Par exemple, je donne un exemple. La culture sur sol salé, c'est un problème parce qu'il y a une montée des eaux de mer, les sols se salent et donc il existe des plantes qui naturellement résistent. Ce sont des plantes halophytes. Eh bien, il y a un article qui a été publié sur une toute petite tomate qui s'appelle la tomate groseille, hein, Solanum pimpinalifolium. Eh bien, cette tomate-là, en quelques coups de mutation, elle a été domestiquée, les tomates sont devenues plus grosses, l'architecture de la plante a changé, le territoire de culture a changé, mais elle a conservé sa capacité naturelle à pousser sur un sol salé.
Et elle n'est pas plus salée.
et elle n'est pas plus salée elle-même.
François Parcy, les clés du champ, comment domestiquer les plantes et peut-être demain mieux nourrir la planète avec des plantes qui résistent au changement climatique. François Parcy, je voudrais que vous nous racontiez l'histoire de la couleur de la carotte, parce que ça dit plein de choses sur votre domaine de compétences et sur les recherches qui ont été menées et qui restent à mener.
Alors les carottes sauvages en Europe, elles ont une racine qui n'est pas très épaisse et qui est blanche ou qui est beige. Et puis les carottes qu'on connaît aujourd'hui, qui ont été domestiquées, elles ont cette couleur orange magnifique. Et en fait, alors l'histoire de la carotte, elle n'est pas si facile à retracer, mais on pense qu'en fait la carotte qu'on mange aujourd'hui, elle est arrivée d'Asie, elle était violette et on trouve encore ces carottes violettes aujourd'hui. Elle a perdu sa couleur violette pour devenir jaune. Elle a peut-être été croisée avec des carottes européennes jusqu'à devenir orange. Et à ce moment-là, la légende dit que la famille Orange de Nassau, qui gouvernait dans les Pays-Bas à l'époque, eh bien, elle a aidé la popularisation de cette carotte orange très visible, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on mange cette carotte. Mais on pourrait penser que cette carotte, elle est locale, c'est quelque chose qui est bien européen et tout. Pas du tout, comme pour la majorité des légumes. Ils nous viennent de tous les côtés, les tomates, les pommes de terre viennent d'Amérique, etc. Il y a très peu de choses locales, et la carotte, c'est un bel exemple de ce qu'on a pu faire en modifiant les plantes et en mélangeant des variétés venues du monde entier.
On a tendance à croire qu'un bon légume ou un bon végétal, c'est un végétal auquel l'homme n'a pas touché, qui est dans son terroir depuis toujours, que la main de l'homme n'a jamais travaillé. Vous êtes en train de me dire le contraire. C'est-à-dire que le multiculturalisme végétal, c'est bon pour la planète.
Je dis exactement le contraire. Pour moi, il faut se nourrir de cette diversité et se nourrir au sens propre du terme. C'est-à-dire que si on avait eu peur des plantes venues d'ailleurs, mais imaginez la cuisine méditerranéenne. Qu'est-ce qu'on aurait ? On n'aurait pas la tomate, on n'aurait pas le poivron, on n'aurait pas l'aubergine, on n'aurait pas la pomme de terre. Ça serait extrêmement pauvre. Il faut se nourrir de la diversité du monde. Et moi, je ne pense pas que s'attacher au terroir dans ce domaine-là, ça soit si important que ça.
Les clés du champ, François Parcy, ça vient de paraître aux éditions Humaine Science. Si vous voulez savoir comment la recherche va inventer demain des végétaux solutions, vous le lisez, c'est passionnant. Merci François Parcy. À suivre, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno sous le signe de la terreur. Et enfin, notre esprit libre du lundi.